radio estable.
Morning edition from NPR News.
Radio Rosana Piperi.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Quand l'officier nord-coréen est venu pour me violer, il a juste enlevé son pantalon, sans dire un seul mot.
Le témoignage d'une femme nord-coréenne réfugiée au sud qui raconte les abus sexuels subis au nord, abus commis par des officiels du régime nord-coréen. Ce sera l'escale reportage avec Frédéric Ojardias dans Un jour dans le monde. Au sommaire de l'émission, sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier, et puis l'Europe dans le monde, Quentin Dickinson à Bruxelles, la succession de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, cette succession est ouverte. Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Après les élections de mi-mandat aux États-Unis, le Parti démocrate totalement divisé. Le choix d'un candidat pour la présidentielle de 2020 s'annonce complexe. Mais tout de suite, le Brexit et son histoire.
Pierre Veil, Un jour dans le monde.
Kevin O'Rourke est professeur d'histoire économique à Oxford, professeur invité à Sciences Po Paris. Bonsoir Kevin O'Rourke.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes irlandais, de mère danoise, vous vivez à Dublin et à Saint-Pierre-d'Entremont, un village chez nous dont vous êtes conseiller municipal, donc vous êtes un vrai Européen. Et vous publiez une brève histoire du Brexit. Nous sommes tous concernés, c'est paru chez Odile Jacob. Michel Barnier, le négociateur européen, disait il y a quelques jours, il est clair que du travail est encore nécessaire dans les négociations du Brexit. Donc la fin de votre livre reste à écrire.
C'est sûr, oui.
Alors dans ce livre, Kevin O'Rourke, vous rappelez que ce Brexit, il a des racines qui remontent très loin dans le passé de la Grande-Bretagne. Vous écrivez que les Britanniques n'ont jamais vraiment accepté l'Europe supranationale.
Pour bien des raisons, oui, ils ont été réticents concernant la supranationalité de la construction européenne, et j'avais envie d'expliquer cela aux lecteurs français, mais j'avais aussi envie de leur expliquer pourquoi l'Europe est devenue supranationale, car si le Royaume-Uni a une histoire, l'Europe en a une aussi, et c'est la collision entre ces deux histoires qui font que nous sommes maintenant dans ces difficultés-là.
Mais comment expliquez-vous cette particularité britannique? C'est l'histoire de la Grande-Bretagne? C'est le fait que c'est une île?
En partie, ça a des racines qui remontent au 19e siècle où le Royaume-Uni était vraiment au centre d'un monde mondialisé avec son empire. Et l'empire a continué à jouer un rôle important dans la société, la politique britannique jusque dans les années 50 du 20e siècle où justement se faisait la construction européenne. Et ça voulait dire qu'ils étaient réticents parce que ils ne voulaient pas faire de choix entre leur ancien empire et l'Europe. Ils voulaient avoir le beurre et l'argent du beurre de l'époque. Ils voulaient garder les liens avec tout le monde, mais il fallait choisir.
Et cette réticence, en fait, elle est toujours là. Elle existe. Elle a toujours existé. Et elle explique ce Brexit?
Il y a beaucoup de raisons pour le Brexit et il est impossible de dire qu'il y a une seule raison. Il y a plusieurs raisons structurelles de fond. Il y a l'histoire britannique, il y a aussi la mondialisation qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de communautés, et non pas seulement en Angleterre, aux États-Unis où des gens ont voté pour Donald Trump en partie parce qu'ils souffraient de la concurrence chinoise. Il y a bien sûr des gens en France qui aussi en subissent. Donc il y a ça. Il y a l'austérité en Grande-Bretagne sous le gouvernement Cameron qui a retiré les filets de sécurité qui devaient protéger ces gens-là juste au moment où ils en avaient besoin. Mais il y a aussi des raisons complètement aléatoires. La décision de dernière minute de Boris Johnson de pencher pour le Leave plutôt que pour le Remain. Il aurait pu basculer dans l'autre sens, mais il ne l'a pas fait. Donc toujours quand on veut expliquer quelque chose comme ça, il n'y a pas une seule raison.
Alors Kevin O'Rourke, dans ce livre, Une brève histoire du Brexit, il y a un rappel de quelques étapes dans l'histoire des relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe pour essayer de comprendre ce Brexit. Par exemple, juin 1975, on organise un référendum en Grande-Bretagne pour demander s'il faut, oui ou non, rester dans les communautés européennes. C'est comme cela qu'on appelait à l'époque l'Union européenne. 67% pour le oui.
Oui, en fin de compte, les Britanniques peuvent être pragmatiques,
mais oui,
des fois, et c'est ça ce qu'on attendait de leur part cette fois-ci. Mais ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, le référendum a eu lieu pour des raisons assez similaires du référendum de 2016. Donc, il s'agissait de questions de politique interne à un parti, en l'occurrence le Parti travailliste. Harold Wilson ne savait pas comment préserver l'unité de son parti déchiré entre les eurosceptiques et les europhiles. Donc, il a dit, on va renégocier et on va avoir un référendum. Ça a marché en 75, mais pas en 2016. Mmh.
Alors, bien sûr, dans l'histoire de la Grande-Bretagne, lié à ce Brexit, il y a un personnage qu'on ne peut pas éviter, c'est Margaret Thatcher, et son célèbre « I want my money back » en novembre 1979, « Rendez-moi mon argent ». Mais vous rappelez, dans ce livre, que Margaret Thatcher, à la tête de son gouvernement, a défendu un plus grand approfondissement de l'intégration européenne, le marché unique, elle disait oui.
Et effectivement, et c'était à Fontainebleau en 1984 qu'elle a eu son argent à la fois, et elle a aussi commencé la construction de ce marché unique qui n'est pas seulement important du point de vue économique. Sur le plan politique, il a fallu passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour pouvoir construire ce marché unique. Donc, il y a eu un pas vers un plus grand supranationalité qui est largement dû à Madame Thatcher.
Elle croyait au marché unique tout en défendant, et on l'a vu, avec dureté, la Grande-Bretagne.
Elle y croyait, et ça, il est urgent de le rappeler aux Brexiteurs, parce que c'est une des grandes constructions de l'Europe, et ça permet surtout le commerce sans friction, et le commerce sans contrôle aux frontières. Et c'est pour ça qu'on le fait, et ils vont le regretter.
Alors, il y a une date importante dans votre livre, c'est l'année 2010. David Cameron arrive au pouvoir et là, il va devoir faire face à la révolte de 81 députés de son parti, 81 députés conservateurs.
Oui, qui ont réclamé un référendum sur le Brexit. Et à partir de ce moment-là, selon certains experts, il était inévitable qu'il y ait un référendum. D'autres, par contre, disent que non, c'était quand même une erreur de sa part. Cameron lui-même n'était pas hostile à l'Europe. Il voulait surtout ne pas vaticiner sur le sujet parce qu'il savait bien que, c'est ses propres mots, car il savait bien que les clivages sur l'Europe avaient conduit à un gouvernement travailliste pendant 3 mandats. Mais mine de rien, il a vaticiné, ils n'ont fait que ça et leur parti est toujours divisé.
Kevin O'Rourke, on se pose toujours la question pourquoi Cameron s'est lancé dans ce référendum sur le Brexit. En fait, il était convaincu que les Britanniques diraient « on reste dans l'Europe ». Pourquoi il s'est trompé?
Ça avait marché pour Harold Wilson en 75. Donc,
voilà,
et en plus, il n'est pas le seul politicien à être convaincu d'être capable de convaincre tout le monde. Donc c'est quand même quelqu'un qui croit en soi-même. Donc, il pensait qu'il allait aller à Berlin et convaincre Mme Merkel de refondre les traités pour supprimer la libre circulation des personnes, ce qui n'était jamais, ce n'aurait jamais été possible, et ensuite qu'il gagnerait le référendum. Donc, il était trop confiant en soi-même.
Donc, c'est une erreur historique?
Ah ben oui, ouais. C'est sûr. Et il n'a même pas pu résoudre les problèmes politiques de son propre parti.
Alors Kevin O'Rourke, il se trouve que Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères britannique, est à Paris. Il a accordé une interview exclusive à Isabelle Labéry avec les moyens techniques pour la prise de son de Frédéric Cayrou. Un sondage récent révélait que si on interrogeait à nouveau les Britanniques sur un éventuel Brexit, le camp du maintien dans l'Union européenne l'emporterait avec 54% des voix. Alors, pourquoi ne pas organiser un nouveau référendum? La réponse de Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères britannique.
En fait, je crois que les sondages d'aujourd'hui ne sont pas différents de ce qu'ils étaient quelques mois avant le premier référendum. Et si nous avions un deuxième référendum, à mon avis, le résultat serait le même. Mais surtout, organiser un deuxième référendum pose un problème fondamental, un problème de démocratie. Imaginez qu'on le fasse et que le résultat soit l'inverse, le maintien au sein de l'Union européenne. Ceux qui ont perdu diraient, on veut en faire un troisième et un quatrième, et combien il en faudrait pour que le résultat soit clair? En tant que démocratie, nous avons le devoir de respecter le résultat d'un référendum. J'irai même plus loin. Si vous ne faites pas ça, il y a un vrai risque de malaise social. Le peuple serait très très en colère s'il estime que ceux qu'il a élus à des postes à responsabilité ne l'écoutent pas.
Kevin O'Rourke, j'en rappelle, un professeur d'histoire économique à Oxford qui publie une brève histoire du Brexit chez Odile Jacob. Que pensez-vous de la réponse de Jeremy Hunt?
Il n'a pas tort concernant les sondages qui donnaient en effet le Remain gagnant jusqu'à assez tard dans le processus. Étant irlandais, par contre, je trouve que les gens ont le droit d'avoir tort et ils ont le droit de revenir sur leurs erreurs. En Irlande, on a eu deux votes sur le traité de Lisbonne, par exemple. On a renégocié un peu, on a eu un nouveau vote et ça a passé la deuxième fois. Mais il a raison. Il faudrait peut-être un nombre impair de référendums là-dessus. Mais bon, on peut dire qu'ils sont à égalité maintenant, 75 pour l'Europe et 2016 contre.
Mais vous avez le sentiment quand même que peut-être les Britanniques, aujourd'hui, face aux difficultés de cette négociation avec l'Europe pour ce Brexit, les Britanniques se disent, on a peut-être fait une erreur en disant, on s'en va.
Il y en a sûrement certains qui ont cette impression-là. Il y en a d'autres qui sont convaincus qu'ils avaient raison de voter pour le Brexit. Et M. Hunt n'a pas tort quand il dit qu'il faut respecter la démocratie et il faut surtout respecter les gens qui ont exprimé leur proteste contre ce qui est en train de se passer, surtout dans les régions déindustrialisées de l'Angleterre du Nord.
Kevin O'Rourke, expliquez-nous l'importance de la question de la frontière irlandaise dans ces négociations sur le Brexit. Pourquoi faut-il éviter à tout prix le retour d'une frontière visible entre cette province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande?
Le Brexit est un bon moment de se rappeler que avant tout l'Europe c'est un projet de paix et un projet politique et ça s'est révélé tout au long de la frontière irlandaise. Grâce à l'union douanière, grâce au marché unique, il n'y avait plus besoin de contrôle concernant les marchandises traversant cette frontière-là. Et quand il y a eu, en fin de compte, le processus de paix, et quand il n'y avait plus de menaces terroristes, alors les contrôles sécuritaires ont aussi été enlevés. Ce qui veut dire que si vous êtes nationaliste en Irlande du Nord, vous vous sentez irlandais, vous avez droit à un passeport irlandais grâce à l'accord de Vendredi Saint, vous pouvez vous sentir irlandais et la frontière est invisible. Et vu que la frontière est invisible, alors peu importe que vous soyez résident en Irlande du Nord ou en Irlande du Sud, ça n'a pas d'importance. Alors pourquoi mener une guerre civile pour quelque chose qui n'a pas d'importance? Le risque, et on ne dit pas que c'est une inévitabilité, mais on dit que c'est un risque. C'est que si cette frontière-là revient, alors les gros durs des organisations terroristes, ils auront à nouveau une revendication. Il y a une frontière de nouveau qui apparaît. Et encore mieux pour eux, ils auront des cibles. Ils auront des installations qu'ils peuvent faire exploser. Et si ces installations sont protégées par des policiers ou des militaires, alors ils ont des cibles humaines, malheureusement. Donc c'est trop dangereux.
Donc ça veut dire que le retour de cette frontière, ça pourrait ranimer ce terrible conflit d'Irlande du Nord.
C'est une possibilité. Et c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Le conflit en Irlande du Nord a coûté la vie de 3230 Irlandais du Nord, ce qui, à l'échelle française, est l'équivalent de 110 000 morts, soit 10 assassinats par jour, chaque jour, pendant 30 ans. Ça a complètement anéanti la vie ordinaire là-haut pendant 3 décennies et il ne faut pas recommencer.
Vous écrivez sur la première page de votre livre, le titre, Une brève histoire du Brexit, nous sommes tous concernés. Alors, les Français par exemple, en quoi sommes-nous concernés par ce Brexit?
Tout d'abord, s'il y a un Brexit catastrophique sans accord, alors forcément ça aura des implications en France, surtout à Calais et aux autres ports de la Manche, car le commerce ne pourra pas se poursuivre comme il le fait maintenant. Côté anglais, on avait estimé que si chaque camion était contrôlé que pour 2 minutes, ça suffirait pour créer une queue de long de 27 kilomètres sur les autoroutes britanniques. On peut prévoir qu'il y aurait aussi des coûts côté français.
Toutes les hypothèses circulent actuellement sur l'issue de ces négociations en cours entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur ce Brexit. Kevin O'Rourke, quelle est, selon vous, l'hypothèse la plus probable?
J'essaie d'insister dans mon livre sur le fait que c'est complètement imprévisible. Et ça a une certaine utilité pédagogique, parce que quand on vit l'histoire, c'est toujours incertain. Quand on écrit l'histoire, d'habitude, on sait ce qui s'est passé et on explique comme si c'était inéluctable. Mais il n'en est rien. Tout d'abord, ça dépend de si les Britanniques acceptent la clause de sauvegarde pour l'Irlande du Nord, ce qui laisserait l'Irlande du Nord de fait dans l'union douanière et le marché unique pour empêcher qu'il y ait cette frontière qui réapparaisse. Si oui, alors c'est bon, on peut aller de l'avant. Sinon, on est en très grande difficulté. Mais même s'il y a un accord, il y a aussi la possibilité que la Chambre des communes dise niet. Et alors, personne ne sait ce qui va à devenir.
Merci Kevin O'Rourke. Je rappelle le titre de ce livre paru chez Odile Jacob, pour comprendre une brève histoire du Brexit. Nous sommes tous concernés.
Merci beaucoup.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
À suivre sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier et puis escale reportage, les femmes nord-coréennes violées, abusées par des officiels du régime. L'Europe dans le monde, Quentin Dickinson est à Bruxelles. Bonjour, bonsoir Quentin.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Vous allez nous parler du futur président de la Commission européenne.
Oui, enfin, pour l'heure, je risque surtout de ne vous révéler que le nom de ceux qui n'ont aucune chance.
Très bien, parfait Quentin, à tout à l'heure vers 18h50 et puis le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Aux États-Unis, après les élections demi-mandat, le camp démocrate est plus divisé que jamais.
Oui, divisé, partagé, de nombreuses lignes de fracture. Il a 2 ans pour trouver le candidat ou la candidate qui créera l'alchimie magique.
Le monde à l'envers. Jean-Marc Four, ce sera vers 18h55. Odetta Hartmann, elle est américaine. Sur son 2e album qui vient de sortir, Old Rock Hounds Never Die, il y a You You, guitare avenante pour du folk électrique. You, it's like climbing up a mountain. You, it's like drinking from a fountain. Youth, youth, it's like swimming in a river. Youth, the way you touch me, it makes me shiver. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, you. It's like you got them superpowers. You, you make me bloom just like a flower. Devour me, you. It's better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run with you, run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, run to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. Odetta Hartmann, You You, 18h37.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimov Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie, on a très peu parlé de cette élection ces derniers jours, celle du président de Madagascar.
Et pourtant, les enjeux sont grands dans cette île de plus de 24 millions d'habitants paralysés régulièrement par les crises politiques. Alors ici, c'est le dépouillement dans un bureau de Toamas, nos micro-RFI de Laetitia Bezin. Une ambiance bon enfant dans cette grande ville portuaire de la côte Est. Au terme du premier tour hier, les premiers résultats donnent au coude à coude deux anciens présidents, André Razouéline et Marc Ravalomanes. Un autre ex-président arrive troisième. Les trois ont déployé des moyens impressionnants dans un pays aussi pauvre pour effacer la concurrence. 36 candidats au départ. Ce scrutin était de toute façon un test pour consolider une démocratie fragile entre coup d'État et violence meurtrière. D'où cette mise en garde de Saondra Rabenarivo de l'Observatoire malgache de la vie publique.
Il sera extrêmement important d'abord que le résultat soit crédible. Nous, à Tananarive, les grandes villes, il est devenu pratiquement impossible de tricher. Les gens restent jusqu'à minuit, prennent des photos du résultat, ils connaissent le résultat et c'est pour ça que le lendemain même, à Tananarive, il faut que les résultats soient publiés en ligne.
Alors l'ex-président arrivé troisième dénonce il y a quelques instants de nombreuses irrégularités, ce qui n'augure rien de bon. Le second tour est prévu le 19 décembre.
Amélie, une célébration maintenant et ses conséquences sur l'écologie.
La fête de Diwali, célébrée en Inde par les hindous, aussi par les sikhs et les jains. C'est la fête des lumières. Bouchez-vous les oreilles, Pierre. C'est une fête où l'on tire des feux d'artifice, des pétards, sauf que tous ces engins dégagent des fumées toxiques. Et quand on enflamme des millions de pétards, Delhi, la capitale, suffoque. Hier, le seuil limite a été franchi plus de 60 fois dans la matinée. La densité de particules fines enregistrée par les appareils de mesure du gouvernement a atteint le chiffre de 1665, alors que l'OMS tire la sonnette d'alarme au-delà de 25. Delhi a été plongée dans des brouillards toxiques, le trafic a été ralenti, les autorités sont bien conscientes du problème. Cette année, elles avaient limité l'autorisation des pétards à une fenêtre de 2 heures et seulement des pétards verts, entre guillemets, censés émettre moins de polluants et moins de bruit. Des interdictions très peu respectées apparemment.
Un Néerlandais poursuit son gouvernement en justice pour avoir 20 ans de moins. Oui, Il a raison.
C'est tout à fait sérieux. Peut-être que vous ferez la même chose qu'Emile Ratelband. Il entame des poursuites pour faire changer sa date de naissance sur son passeport. Il ne veut plus être né en 1949, mais en 1969. Pour expliquer sa démarche devant les tribunaux, il dit vouloir avoir de nouveau 49 ans pour retourner au travail et pour pouvoir rencontrer davantage de femmes sur Tinder. Il paraît que ça marche mieux pour les jeunes. Il témoigne dans le journal De Telegraph. Aujourd'hui, vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre genre, alors pourquoi pas votre âge. La plus grande discrimination, selon le Néerlandais, adepte des raccourcis apparemment et pas que pour son âge.
Amélie, j'ai un souci, je ne sais pas quoi regarder à la télévision ce soir.
Alors, prenez peut-être exemple sur les Britanniques. Eux, oui, ça se passe ce soir à 21h sur BBC One.
As the Prince of Wales turns 70.
He's got a big sort of heart.
And a passion. He's driven.
The man never stops.
With unique access, BBC brings a revealing and intimate portrait.
He's pretty impatient.
Really? You don't say.
Prince, son and heir. Charles at 70 on BBC One.
Ah oui, c'est la bande-annonce du documentaire Prince, fils et héritier Charles à 70 ans. Car le prince de Galles fête ses 70 ans. Lui, il assume bien son âge. Charles en profite ainsi pour calmer les inquiétudes sur le fait qu'une fois monté sur le trône, il pourrait se mêler des affaires publiques. « Je ne suis pas si stupide », répond-il dans ce documentaire. Vous savez qu'au Royaume-Uni, le monarque règne mais ne gouverne pas. Or, Charles est critiqué pour avoir mené des campagnes, par exemple, contre les cultures OGM ou le changement climatique. Clairement, je ne pourrais pas faire ce que je faisais tant que j'étais héritier de la couronne. Un fatalisme partagé par son épouse Camilla, qu'on entend aussi dans ce documentaire. Je ne pense pas que cela pèse sur ses épaules. Le couronnement, dit-elle, c'est juste quelque chose qui va arriver.
Le monde sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Merci Amélie.
France Inter,
Doha, Harare,
Jérusalem, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
Et Et voici l'escale reportage. La détente politique sur la péninsule coréenne depuis le début de l'année ne se traduit pas par une amélioration de la situation des droits de l'homme en Corée du Nord, bien au contraire. Jeudi dernier, l'ONG humanitaire Human Rights Watch a même publié une enquête accablante qui affirme que les femmes nord-coréennes sont victimes de nombreux viols et d'abus sexuels perpétrés en toute impunité par des officiels. En ligne avec nous, notre correspondant en Corée du Sud, Frédéric Ojardias. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Frédéric, tout d'abord, ce rapport de Human Rights Watch, de quoi accuse-t-il la Corée du Nord ?
Eh bien, l'ONG affirme que les violences sexuelles perpétrées par des représentants de l'État sont si courantes en Corée du Nord qu'elles sont, je cite, acceptées comme faisant partie de la vie quotidienne, et la peur des représailles politiques et l'absence de recours légal met les femmes à la merci de ces officiels. Ces prédateurs sexuels peuvent être des représentants du parti, des gardiens de prison, des officiers de police, des interrogateurs, des soldats, des procureurs. Pour son enquête, Human Rights Watch a interviewé 54 réfugiées nord-coréennes, des témoignages souvent effroyables. Voici par exemple celui de Yoon Sul-yeon qui raconte son séjour dans une prison.
Quand l'officier nord-coréen est venu pour me violer, il a juste enlevé son pantalon, sans dire un seul mot. Il n'y avait aucun endroit où m'enfuir. J'ai pensé, si je refuse, que va-t-il m'arriver ? Alors, j'ai cédé. J'ai été libérée le lendemain. C'est l'homme qui m'a violée qui a rempli les documents nécessaires pour ma libération. J'ai pensé que pour pouvoir sortir de prison et prendre soin de mon enfant, il fallait donner mon corps. Ces hommes portent un uniforme. Ils ont la loi de leur côté.
Depuis l'effondrement économique du pays dans les années 90, ce sont en majorité les femmes qui font vivre leur famille grâce au marché noir. Et pendant que leurs maris sont obligés de se rendre à leur travail officiel et très mal payé, ces femmes font du commerce et elles se déplacent à l'intérieur du pays. Elles ont donc gagné en liberté, mais elles sont aussi devenues des proies faciles pour les fonctionnaires et les officiers qui contrôlent les marchés, les routes et les moyens de transport. Voici un autre témoignage de réfugié recueilli par Human Rights Watch, celui de Park Soldan.
Quand les officiers de police patrouillent, s'ils voient une jolie femme, ils essaient de trouver un problème. Même si cette femme a ses papiers d'identité, son permis de voyage et tous les documents nécessaires en règle, ils disent « Oh ça, ça ne va pas ». Donner son corps à un officier de police est si courant, on ne peut rien y faire.
Frédéric Ojardias, ces victimes nord-coréennes n'ont-elles pas des recours légaux pour se défendre et faire punir les coupables ?
Non, elles expliquent que porter plainte risque surtout de leur attirer de graves représailles. À cela s'ajoute la honte, la stigmatisation sociale très forte, le manque d'éducation sur le sujet. Les victimes préfèrent se taire et le gouvernement ferme les yeux. Résultat, la terreur et la loi du silence règnent, explique Lee So-yeon, militante originaire du Nord, à l'ONG Human Rights Watch.
En Corée du Nord, la plus légère des punitions, quand on refuse des avances sexuelles, consiste en des souffrances physiques. Par exemple, dans une usine, on imposera à ces femmes des tâches plus dures, on leur donnera le travail le plus épuisant. Et puis il y a les punitions psychologiques, comme une surveillance et un contrôle politique accru. Voilà pourquoi les femmes, quand elles prennent tout ça en considération, concluent qu'il vaut mieux obéir aux hommes de pouvoir.
Alors, conclusion, Frédéric Ojardias, la détente politique et la reprise du dialogue avec la Corée du Nord, cette année, ne se sont donc pas traduites par une amélioration des conditions de vie de la population.
Hélas non, le rapporteur de l'ONU pour les droits de l'homme, Thomas Orea Quintana, a d'ailleurs récemment déclaré que si ce processus de dialogue était encourageant pour la sécurité et la paix dans la région, de façon générale, la situation des droits de l'homme au Nord restait catastrophique. Ce rapporteur regrette que les récentes déclarations conjointes signées par la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis ne mentionnent jamais cette question. Et sur le sujet des violences sexuelles, Kenneth Ross, qui est directeur exécutif de Human Rights Watch, appelle les pays de la région à faire pression sur le régime.
The North Korean government could solve it without in any sense jeopardizing its grasp.
Le gouvernement nord-coréen pourrait résoudre ce problème sans même que cela ne menace son pouvoir. Certains pourraient dire que pour survivre, le régime doit laisser ses officiels être corrompus. Mais ça ne signifie pas qu'il doit laisser ses représentants violer les femmes qu'ils veulent. Donc on espère que le gouvernement nord-coréen va agir et aussi que les interlocuteurs internationaux de la Corée du Nord vont insister pour qu'il y ait des actions. Ces jours-ci, la seule chose qui semble compter, c'est la question nucléaire. Mais il n'y a aucune raison de tolérer ces viols qui continuent d'avoir lieu. C'est inacceptable et il est tellement évident que le problème peut être résolu. Nous espérons vraiment que les interlocuteurs de la Corée du Nord insisteront pour changer cela.
Mais la Corée du Sud, elle, veut surtout améliorer ses liens avec Pyongyang. Elle évite soigneusement de parler de droits de l'homme pour éviter de froisser le régime. Les États-Unis, eux, ne s'intéressent qu'au nucléaire. Après avoir rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le président américain Donald Trump avait même déclaré que Kim était, je le cite, un type marrant, très intelligent, qui aime son peuple. Il ne faut donc guère espérer une amélioration prochaine du sort des femmes nord-coréennes.
Voilà, enquête de Frédéric Ojardias, notre correspondant dans la péninsule coréenne. Et vous l'entendez, ces chants, ce sont des chants militaires de l'armée nord-coréenne. C'est un jour dans le monde et voici une figure de la soul music. C'est lui qui avait fait la musique de la formidable série Big Little Lies, Michael Kiwanuka. Et en 2016, il chantait Black Man in a White World.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. 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 I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying. Wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
Héritier d'Otis Redding ou James Brown, c'est Michael Kiwanuka, Black Man in a White World.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter,
le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati, per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Et le jeudi, c'est l'Europe dans le monde avec Quentin Dickinson à Bruxelles. Quentin, pour l'Union européenne, 2019 sera l'année de toutes les incertitudes. Le Brexit en mars, les élections européennes en mai et, on viendrait presque à l'oublier, le renouvellement de l'ensemble des commissaires européens a commencé, Quentin, par leur président.
Oui, c'est vrai, l'année prochaine n'est peut-être pas le millésime de tous les dangers, mais incontestablement, tous les boulons institutionnels seront desserrés. Et on en a un peu parlé ici la semaine dernière, à l'approche de la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, eh bien, les appétits s'excitent et les couteaux s'aiguisent.
Quentin, alors comment cette succession va-t-elle s'organiser ?
C'est plus facile à comprendre si l'on part de la fin. Ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement qui ont le dernier mot et ils se réunissent au mois de juin, quelques semaines donc après les élections européennes, pour désigner par consensus le futur président. Mais avant d'aller prêter serment à Luxembourg devant la Cour de justice européenne, ce sera en octobre, l'heureux élu doit encore franchir deux étapes. La composition de son équipe de 26 commissaires et la répartition entre eux de leur portefeuille et surtout le passage obligatoire préalable devant le tout nouveau Parlement européen qui est tout sauf une simple promenade de santé. Car la personne choisie par les chefs d'État et de gouvernement devra réunir sur son nom et sur son programme une confortable majorité parmi les 705 eurodéputés. Pas question de passer, par exemple, à 51% seulement des voix, car ce serait humiliant pour l'intéressé, injurieux pour les chefs d'État et de gouvernement, et bloquerait assez efficacement le nécessaire dialogue entre la Commission et le Parlement.
Quentin, revenons à aujourd'hui. Comment fait-on savoir que l'on veut être président de la Commission européenne ? Je sais pas, il faut s'inscrire quelque part, rédiger un CV, envoyer une vidéo ?
Il paraît surtout indispensable d'être un membre connu d'une famille politique européenne. Il y a le choix, les conservateurs du PPE, le Parti des socialistes européens, les centristes de l'Alliance des libéraux et des démocrates, le Parti vert européen, parmi bien d'autres, dont certains sont ouvertement europhobes. En 2014, certains de ces partis ont inventé un système destiné à forcer la main aux chefs d'État et de gouvernement. Ils ont chacun tenu des primaires et en ont déclaré le vainqueur candidat officiel à la présidence de la Commission européenne. Le truc, c'était que la famille politique européenne, qui réunissait le plus grand nombre de sièges au Parlement européen, prétendait imposer ce choix aux chefs d'État et de gouvernement.
Et ça s'est passé comme cela lors des dernières européennes ?
Oui, et sans difficulté, puisqu'Angela Merkel avait lourdement joué de son influence, tant à la primaire du PPE, dont son parti est membre, qu'auprès de ses pairs. Mais cette fois-ci, le sentiment général, c'est que le système n'a pour toute vertu que de garantir le poste au candidat du PPE, assuré, même affaibli, de rester pour l'avenir prévisible le groupe parlementaire numériquement le plus important. Et le candidat retenu, pas plus tard qu'aujourd'hui, lors du congrès du PPE en Finlande, n'inspire guère un enthousiasme délirant, y compris chez ses propres amis.
Alors, est-ce qu'on connaît les concurrents des autres partis ? Quentin, rapidement, on est un peu en retard.
Oui, eh bien, écoutez, il s'agit d'abord de Manfred Weber, le bavarois de la CSU, qui est l'actuel chef du groupe PPE au Parlement européen, qui l'a emporté. Mais les chefs d'État et de gouvernement peuvent parfaitement s'affranchir de ce système des champions des partis politiques et nommer qui bon leur semble. C'est la chance pour des francs-tireurs de poids, telle la commissaire européenne à la concurrence, pourfendeuse de multinationales, la danoise Margrethe Vestager, ou encore le négociateur en chef du Brexit, le français Michel Barnier, que les milieux européens tiennent pour être de loin le plus légitime.
Quentin Dickinson à Bruxelles. Merci Quentin.
Le 18-20. Pierre Veille sur France Inter.
Le monde à l'envers avec Jean-Marc Four. Jean-Marc, les élections de mi-mandat ont donc livré leur verdict aux États-Unis. Les démocrates, autrement dit l'opposition à Donald Trump, reprennent le contrôle de la Chambre des représentants. Mais c'est une victoire qui pose aux démocrates plus de questions que de réponses en vue de la présidentielle. Dans deux ans, ils vont devoir, les démocrates, relever un défi compliqué, se trouver une ligne politique, car le Parti démocrate n'est pour l'instant uni que par une seule chose, l'opposition à Trump. Jean-Marc, c'est votre monde à l'envers.
Oui, le Parti démocrate est aujourd'hui un patchwork et cette victoire à la Chambre le cache mal. Il est traversé par toute une série de courants contradictoires. La première ligne de fracture, la plus évidente, elle est profondément politique. Elle est visible d'ailleurs depuis 2016 et depuis le duel entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Sur un curseur politique français, on pourrait traduire ça par les démocrates américains, c'est Macron et Mélenchon dans le même parti. Donc vous voyez le problème. Cette ligne de fracture, elle s'est creusée à l'occasion de ces élections de mi-mandat avec la poussée de l'aile gauche du parti. une poussée alimentée logiquement par une sorte d'effet balancier de réaction à Trump. Parmi les élus démocrates à la Chambre, un gros tiers est désormais constitué par ce que l'on appelle les insurgents, hein, en lutte contre la direction du parti. Ils sont à l'opposé des leaders démocrates qui acceptent l'économie de marché et se positionnent au centre-droit ou au centre-gauche. Et plusieurs de ces nouveaux élus se revendiquent carrément du socialisme, c'est-à-dire un gros mot aux États-Unis. Ils prônent l'assurance maladie universelle, la gratuité de l'université, la régularisation des migrants, etc. Citons par exemple la nouvelle coqueluche de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ou bien Gayle McLaughlin en Californie, Ayanna Pressley à Boston, etc.
Jean-Marc, vous semblez dire qu'il y a d'autres lignes de fracture au sein du Parti démocrate.
Et oui, il y en a beaucoup. D'abord, il y a une division establishment anti-establishment. Là, c'est plus social que politique. Plusieurs élus du parti estiment que les dirigeants démocrates sont déconnectés du réel. Et leur cible favorite, c'est carrément leur propre leader à la Chambre, Nancy Pelosi, qui est une Californienne mariée à un millionnaire. En plus, dans cette élite qui est présente surtout sur la côte Est ou sur la côte Ouest, on est traditionnellement libéral sur les questions de société, c'est-à-dire favorable au mariage homosexuel, défenseur de l'avortement, etc. Et là, on tombe sur une autre ligne de fracture. Ces positionnements libéraux ne plaisent pas à l'électorat d'origine hispanique, souvent catholique. Or, les démocrates ont besoin de cet électorat pour gagner. On va continuer. C'est une autre difficulté. C'est la fragmentation des différents groupes d'intérêts ethniques ou religieux. Certains noirs, électorat normalement acquis, craignent de perdre des investitures au profit des latinos. Les nouveaux députés musulmans, il y a deux femmes, veulent défendre le droit à pratiquer cette religion librement, mais cela inquiète une partie de la communauté juive. Or, les juifs votent à 75% pour les démocrates qui ont un besoin crucial de ce vote pour l'emporter. Donc, vous voyez, on se résume, le Parti démocrate agrège aujourd'hui les revendications souvent contradictoires de tous les groupes sociaux et identitaires dans une sorte d'arc-en-ciel. Ça ne fait pas un projet de société, ça ne peut pas mobiliser suffisamment pour gagner une élection présidentielle.
Mais Jean-Marc Vour, là, je sens que vous nous prédisez déjà une nouvelle victoire de Donald Trump dans 2 ans.
Alors, on n'en est pas là, précisément, parce que c'est dans 2 ans. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a d'un côté un parti patchwork, je le disais, et de l'autre un one-man show, si vous voulez, assez homogène, parce que dans l'autre camp, en effet, les élections de mi-mandat ont servi à Trump à mettre son parti en ordre de marche derrière lui, à éliminer les têtes qui dépassaient, les élus qui n'étaient pas dans sa ligne. Pour le dire autrement, le parti républicain est désormais trumpisé. Il est homogénéisé autour de certaines valeurs pro-armes, anti-immigration, pro-business, etc. Le défi des démocrates pour les 2 ans qui viennent, c'est donc de trouver le candidat avec la baguette magique qui dépasse l'agrégat des revendications. Parce que, on le sait, on ne gagne pas uniquement un scrutin en négatif, en mobilisant contre l'adversaire. Il faut créer du positif, susciter de l'adhésion, de l'espoir dans son camp. C'est compliqué, c'est possible, parce que le système des primaires américaines a cette capacité unique à faire surgir un candidat sorti de nulle part, qui crée l'alchimie, Clinton, Obama. Et là, on pense forcément à une femme, parce que selon une enquête de CNN, 60% des femmes ont voté démocrate avant-hier. L'électorat féminin, voilà l'atout majeur des démocrates face à la misogynie et au machisme de Trump.
Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four, à réécouter sur le site de l'émission, franceinter.fr.